parce que ça violentait l'esprit de la loi. Alors, on a prétexté le fait que le texte n'exigeait pas résidence pour celui qui souhaite se présenter et représenter nos expatriés, et pour accepter éventuellement la candidature du fils du président, et pas n'importe qui, hein, quand même. Donc, il y a aussi donc une charge symbolique. Vous voulez élire quelqu'un représentant une communauté ou une partie d'une communauté dans un pays, en l'occurrence dans l'Allemagne, il faut que ce soit quelqu'un qui réside. Et on ne va pas présenter quelqu'un qui n'y réside pas. Et c'est le cas de monsieur Celsifis, qui n'a jamais résidé d'ailleurs. À la limite, il aurait résidé un certain temps, se dire, oh, mais je connais bien le pays, j'y ai résidé. Ce n'est même pas le cas. Heureusement, enfin, grâce à la société civile, entre autres, il a finalement jugé bon de ne pas se présenter. Ça nous a révoltés parce qu'on affecte le respect de la loi, on s'y réfère, mais en fait, on fait soit de mauvaises lois pour pouvoir les interpréter comme on veut, et soit tout simplement, on se limite à interpréter faussement le texte qui est clair ou ne pas tenir compte de l'esprit de la loi. C'est ce que j'appelle donc non pas un état de droit, hein, mais un état de simili-droit, et ça, ce n'est pas nouveau. Ça existait déjà sous l'Ancien Régime, sous les dictatures, on ne fait que continuer à aller dans ce sens-là.
Donc le candidat du parti Nida Tounis risque d'être soutenu par le parti islamiste Ennahda. Donc les deux partis au niveau national ont fait coalition. Qu'est-ce que cet assemblage vous inspire?
On joue la carte de la conciliation, mais sur donc les apparences, hein, pas au fond. Donc justement, au nom de cette sacro-sainte alliance entre les supposés modérés laïcistes, et parce qu'ils sont plutôt traditionnalistes aussi, et les supposés modérés islamistes, qui sont au fond dogmatiques et très intégristes quant au fond. Mais c'est une alliance, évidemment, qui n'est pas bonne pour le peuple. Elle est bonne pour ceux qui gouvernent, oui, mais pas pour le peuple, parce qu'elle permet de maintenir en l'état une législation qui est scélérate, parce qu'elle date de la colonisation, elle date bien sûr de la dictature.
Et vous êtes aussi très critique vis-à-vis de la chancelière allemande Angela Merkel et de sa politique en Tunisie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer vos griefs, notamment
Exactement,
économiquement
donc
et
à
au
l'égard
sujet
de
de
la chancelière,
l'immigration?
pour laquelle j'ai beaucoup de respect et je salue d'ailleurs sa position dans le drame des réfugiés. Seulement, nous avons aujourd'hui un drame permanent en Méditerranée, hein, une voie juste d'Europe. C'est la mère de Lampedusa qui a osé parler, c'est terrible, d'holocauste moderne. Donc nous avons un holocauste moderne en Méditerranée, et vous avez le drame donc récent au large de Kerkenna. Kerkenna,
Oui,
sur
en
mes îles
île de
natales d'ailleurs.
Tunisie.
Et donc ça ne peut pas ne pas toucher, ça ne peut pas ne pas révolter toute conscience libre. Nous avons besoin d'arrêter au plus vite ces drames qui se multiplient en Méditerranée. Or comment? Ces drames, eh bien, ils sont générés par la fermeture des frontières. Et donc, il faut les ouvrir. Mais on ne peut pas les ouvrir, vous direz-t-on. Moi, je dis, je propose un outil qui est respectueux des réquisites sécuritaires et qui permettra en même temps de réaliser une sorte de libre circulation, mais rationalisée. C'est ce que j'appelle le visa biométrique de circulation. C'est-à-dire que la situation actuelle continuera. Il y aura toujours des visas, il y aura toujours le relevé des empreintes digitales. Ce qui est, entre guillemets, illégal, ça viole le droit international et c'est une grosse concession faite par les pays du Sud, et donc en l'occurrence la Tunisie, puisqu'elle autorise une autorité étrangère de prélever les empreintes digitales de ses citoyens. Ce n'est pas
Sans
possible.
contrepartie, comme vous dites, oui.
Donc, on prélève les empreintes digitales, mais on donne un visa, non pas de court séjour, non pas touristique, non pas pour une seule entrée, mais tout simplement un visa d'une année, avec entrée multiple et gratuitement et à tous ceux qui le demandent. Voilà une sorte de libre circulation, mais rationalisée. Donc on reste dans le cadre actuel, respect des réquisites sécuritaires, seulement ça respecte en même temps un autre principe cardinal, et quand même ça réfère aux valeurs de l'Occident, c'est-à-dire donc cette libre circulation qui est un des droits de l'homme.
Et vous fustigez également l'idée d'instaurer des camps d'accueil de migrants sur le territoire tunisien.
Oui, donc justement, alors ça c'est dans le cadre de cette politique européenne de migratoire qui doit être modifiée. Bon, moi, vous savez, je suis critique surtout à l'égard de nous, les autorités, parce que cette politique migratoire qui est axée sur la sécurité et qui donne que l'insécurité, qui donne les drames, elle ne peut se mettre en place que grâce à la complicité, allez dire, donc des autorités des pays du Sud. Et moi, je suis très critique à l'égard de nos autorités. Je suis diplomate, donc je sais ce que c'est. Et j'ai travaillé l'année dernière pendant une année au cabinet du ministre, justement. Et je suis pas resté, je suis parti donc au bout d'un an parce que je n'ai pas pu travailler donc et agir. Il nous faut oser dire non à l'Europe, sans histoire, et pour une plus grande solidarité en Méditerranée. Moi, j'appelle à une ère de civilisation entre l'Occident et l'Orient, parce que la Tunisie est au Maghreb. Le Maghreb, c'est l'Occident de l'Orient, quelque sorte. Et donc, si on réussit quelque chose en Tunisie, forcément, ça ne peut que rejaillir sur le reste du Maghreb, le Maroc en premier, mais aussi sur le monde arabe, et évidemment en Méditerranée, et évidemment dans le monde. Et donc, cette Méditerranée doit redevenir un lac de paix.